Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur Cop Aiglon. C'est votre rendez-vous 100% OGC Nice tous les lundis à 19h et c'est assez rare pour le souligner. Débrief de victoire ce soir après le beau succès de l'OGC Nice 2-0 du côté du SCO d'Angers. Mention spéciale évidemment à Eli Wahi, passeur et buteur, monsieur plus comme l'a renommé Claude Puel, qui permet à l'OGC Nice de respirer au classement. 8 points, c'est désormais l'écart entre la 15e place du gym et la 16e, la première de barragiste pour Auxerre. Il fallait remonter au 25 janvier pour retrouver trace d'une victoire en Ligue 1. C'était à Nantes. Pour nous en parler ce soir dans Cop Aiglon, on retrouve Nico Nanino qui nous fait le plaisir d'être là quasiment chaque soir avec nous. Nico, bonsoir.
Bonsoir Samuel, très content de cette victoire, très content de partager le plateau avec un invité qu'on apprécie beaucoup en revenant aussi. Donc tous les signaux sont au vert.
C'est vrai, c'est vrai. Deux invités qui font partie de la famille de Cop Aiglon, la grande famille. Déjà Guillaume Varmus qui nous fait l'amitié de revenir ce soir sur ce plateau de BFM News. Bonsoir mon cher Guillaume.
Bonsoir messieurs, c'est un bonheur, un plaisir de venir parler de football. Et alors, évidemment, le sourire aux lèvres parce que les victoires font toujours du bien. Elles enchantent tout le monde.
Bon, les téléspectateurs le savent, mais il faut que je le rappelle quand même, ancien joueur, ancienne légende du Racing Club de Lens, 427 matchs entre 1992 et 2001 pour vous, Guillaume, passé par Monaco, par Dortmund. Également, on est très heureux de vous avoir ce soir, très heureux aussi de revoir John Wadiz, supporter du gym, qui nous a fait, allez, 3 semaines d'infidélité, c'est ça ?
3 semaines à l'autre bout du monde.
Puisqu'il y avait une bonne raison aussi.
Hein, voilà, John. À l'autre bout du monde, c'est pour ça que je porte ce maillot. Et j'en profite évidemment pour l'offrir à notre monsieur plus
ça, c'était pas,
de
Cop Aiglon. Ça, c'était pas prévu du tout. Hein.
Et mais merci beaucoup. Petit souvenir du Japon.
Maillot 2, vous pouvez nous...
C'est très dur à dire. Sanfrecce Hiroshima, qui joue la Ligue des Champions Asiatiques. Et en plateau, se fera une petite ouverture de quart de J-Ligue 1. Voilà.
Merci beaucoup. Un retour fracassant.
Signé
John Wadiz. Au sommaire de cette émission, on va débriefer évidemment cette victoire 2-0 sur la pelouse du SCO d'Angers en première partie. La deuxième est consacrée, vous le savez, au top flop de la rencontre. Et puis le focus spécial calendrier. 5 membres du top 8 attendent le OGC Nice sur les 8 prochaines rencontres. Paris et Lens à domicile, Strasbourg, Lille et Marseille à l'extérieur. Le gym qui n'a plus gagné contre un gros depuis le 29 octobre, date de la dernière victoire à domicile en Ligue 1 contre Lille. Les amis, faut-il s'attendre à un zéro pointé contre ces équipes et voir revenir les autres prétendants au maintien? C'est la question du focus. Mes invités en débattront dans ce 29e épisode de la 5e saison de Cop Aiglon. On va prendre la direction tout de suite du stade Raymond Coppa pour voir ce qui s'est passé entre Angers et Nice. Les images de ce match comptant pour la 26e journée de championnat et l'ouverture du score à la 65e, signé Melvin Barr sur la passe décisive d'Eli Wahi, 3 minutes seulement après être entré en jeu dans le temps additionnel. Hervé Kofi, vous allez le voir, va monter. Jonathan Clauss est à la récupération. Ballon donné à Eli Wahi, pas hors jeu, puisque parti de sa moitié de terrain au moment de la passe. La suite, vous la connaissez. Ce lob de 35 mètres pour assurer la victoire au gym. 2-0 sur la pelouse du 12e de Ligue 1. La joie de Claude Puel et consort. L'ancien Montpellierin qui confirme son statut d'indispensable. On en parlera évidemment dans cette émission. Guillaume, on n'a pas vu l'image, mais ceux qui regardaient la rencontre l'ont encore en tête. Cet arrêt complètement fou d'Hervé Kofi sur le coup franc de Jonathan Clauss. J'ai envie de vous poser la question directement. Comment il fait pour détourner ce ballon qui était promis, on peut le dire, à la lucarne?
Oui, c'est ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'il y a déjà le mur devant lui. Il ne voit pas très bien le départ du ballon. On sent une légère anticipation sur son côté droit pour aller justement côté par-dessus le mur. Et finalement, il s'aperçoit que le joueur va frapper côté ouvert. Et là, je dirais, c'est sa force. C'est vraiment sa qualité intrinsèque de gardien de but. Des répétitions de tout ce qu'il a accompli depuis qu'il est tout jeune. Où là, vraiment, c'est un arrêt parfait, on peut le dire, ça existe. Où il y a une force phénoménale. Et lui, il fait exactement le geste juste. Où il met son doigt pour le dévier au-dessus. Donc, c'est vraiment remarquable à montrer dans les écoles de gardien de but. Et vraiment, c'est quand on arrive à faire ça en match. Et, alors, malheureusement
match
pour
gagné.
Lui. Voilà. Malheureusement pour lui, heureusement pour Nice. À l'arrivée, ça sert à rien, on va dire. Mais pour lui, pour sa performance personnelle, c'est exceptionnel ce qu'il a fait.
Certains parlent de plus bel arrêt de la saison. Ouais. Cette action, il est candidate, on peut le dire.
Oui, c'est incontestable. Indiscutable. Oui, indiscutable. parce qu'il est dans une stature où il y a une petite anticipation sur la droite et ensuite il se déploie, mais de façon phénoménale, avec une force. Il pousse sur son appui, mais surtout c'est la balle, hein, la force de la balle où lui il réussit à la dévier.
C'est surtout Jonathan Clauss qui le tire tellement bien que ça rend l'arrêt incroyable.
Exact, la puissance de Clauss sous la barre, mais quand on regarde même, c'est même pas sous la barre, elle est carrément dans la lucarne, c'est presque comme un jeu FIFA.
C'est vrai. John, on reste avec vous pour parler de cette victoire. Qu'elle fait du bien, cette victoire. On l'appelle la deuxième sur les 16 derniers matchs de Ligue 1 pour l'OGC Nice.
Il paraît. J'avoue que moi, quand j'ai atterri à Francfort du Japon et que j'ai vu le 4-0 de Rennes, je me suis dit ok, j'espère un changement. Ouais, c'était la semaine dernière exactement. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je suis parti 3 ans parce que j'ai vu Ndashimé sur la feuille de route. J'ai vu Dante titulaire. J'ai vu Eli Wai de retour. Alors que quand je suis parti, il y avait la blessure, il y avait toute cette problématique. On voit qu'on est quand même assez Eli dépendant, malheureusement, sur le front de l'attaque. Mais on a aussi été aidé par une équipe d'Angers qui n'a pas montré grand-chose. Je crois qu'il y a zéro tir cadré dans le match. Donc, bloc défensif en place aussi. Mais je pense que c'était le genre de match qu'il ne faut pas... faut pas ramener match nul sur ça, quoi.
Le point de bascule, John, vous l'avez dit juste avant, c'est la rentrée d'Eli Wai, Nico. Jusque-là, on n'avait pas vu un OGC Nice flamboyant, qui avait certes la possession, la maîtrise du ballon, mais pas plus.
Ben c'est ça, en fait, on a enfin fait un match cohérent et solide. On a renforcé 6 milieux de terrain avec, il faut le dire, la bonne prestation de Chamoundaoui, oui, en numéro 6, qui a fait, à mon sens, beaucoup de bien aussi, qui a structuré et équilibré l'équipe. Et il manquait cette petite magie devant. Évidemment qu'avec seulement 2 joueurs offensifs dans le 11, dont un très jeune qui n'est pas forcément à son poste et un en grande difficulté, il ne fallait pas s'attendre à avoir pléthore d'occasions. Et la rentrée du Eli Wai national... a fait toute la différence et c'était mérité, je trouve, en tout cas.
Guillaume Eli Wai, 0 but sur la première partie de saison avec l'Eintracht Francfort. Un seul depuis janvier 2025 et pourtant, il est en train de maintenir à lui tout seul quasiment l'OGC Nice en Ligue 1. Il espère même la convocation de la Côte d'Ivoire pour la prochaine Coupe du Monde. Ça tient à quoi? Ça tient à rien, finalement, la carrière d'un joueur qui est faite de haut et de bas.
De haut et de bas, il y a des blessures et c'est surtout des opportunités. Et les opportunités, elles sont peut-être... il va peut-être permettre à l'OGC Nice de vivre une très belle fin de saison par ce qu'il vient de faire là à
peut-être
Angers.
En Coupe de France, d'ailleurs.
Oui, parce que du coup, tout reste ouvert. Ça vient d'être souligné. Les ténors, en 3 semaines, tout le monde était quasi disparu. Et d'un seul coup, tout le monde revient. Et lui, il donne la petite étincelle qui... Alors, il faut rester prudent parce que toutes les lacunes ne vont pas d'un seul coup, par ce geste de génie, s'évaporer. Mais il y a un entraîneur qui a une méthode, qui a de l'expérience, les cadres sont là. Et on a un jeune dont on attendait quelque chose depuis longtemps, vous attendiez depuis longtemps, tout le monde l'attendait, qui le montre maintenant. Donc ça donne une perspective de fin de saison intéressante.
Le souci, c'est qu'avant sa rentrée, on voit aussi les grosses lacunes. C'est-à-dire que je pense que l'OGC Nice construisait des bonnes actions et c'est les pistons qui ont été mis en avant. Parce que justement, on manque cette profondeur en attaque. Lorsqu'Eli Wai a un attaquant qui propose différentes courses qui vont de pair avec les milieux et la créativité qu'on a, mine de rien, on a tendance à la galvauder, cette créativité, elle est là. Seulement quand t'as pas de finisseur, c'est évidemment une créativité nulle. Wai rentre, un profil vraiment divers, il fait vraiment tout, remiseur, pivot, renard de surface, il vient en soutien, il défend. Bon bah du coup là, ça met tout le monde en...
Et peut-être que par rapport à ça, Claude Puel va réajuster, ça va faire réfléchir, parce que c'est un point de bascule.
Pour Boudache par exemple, qui pourra faire son rôle de joker et qui pourra venir un peu plus en soutien.
Maintenant il va falloir que lui confirme sa performance d'Angers, mais peut-être que c'est une opportunité d'un point de vue collectif aussi.
Messieurs, je vais vous faire plaisir, j'ai un chiffre sur Eli Wai ce soir, 365. C'est le nombre de secondes entre... l'entrée en jeu d'Eli Wai et sa passe décisive. 365, c'est également le nombre de minutes qui s'étaient écoulées depuis le dernier but de l'OGC Nice. Ça, effectivement, ça fait sens. Guillaume, le Borussia Dortmund en 2003, vous avez redonné aussi confiance après votre passage, après votre
Lens
extraordinaire, Arsenal aussi entre deux. Qu'est-ce qui change dans la tête dans ces moments-là quand une équipe comme ça vous donne finalement la confiance que vous attendiez?
Ça change tout. Ça change tout quand on a une opportunité. C'est ce que je disais. Je dis une carrière, c'est fait d'opportunités. Mais il faut aussi se les créer. Et donc, il faut avoir de l'abnégation, être toujours présent. Et peut-être c'est une toute petite lueur, un tout petit espoir, une toute petite lumière, un moment, une entrée, quelque chose. Et boum, ça bascule. Et alors après, quand vous avez tiré la petite ficelle qui vous est ouverte, il ne faut pas la lâcher et puis grandir et continuer à avancer. Et c'est vrai que c'était mon cas à Dortmund pour rebondir. Comme lui d'ailleurs.
Ouais, je pense qu'Eli Wai fait partie de ces joueurs aussi qui fonctionnent beaucoup à l'affect et à la confiance. Peut-être que c'est ce qui lui a manqué à Marseille, à Francfort. Et à Nice, on aime bien ce genre de joueur. Qui plus est, sous Claude Puel, il a relancé Ben Arfa, plein de joueurs comme ça qui ont réussi sous ses ordres. On a eu l'exemple de Balotelli aussi. Et c'est ce qui rend son histoire encore plus attachante, c'est qu'on nous annonçait comme un pari très 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 risqué, un garçon presque même à problème, et au final on se rend compte qu'il a une mentalité irréprochable, en plus des qualités indéniables qu'on lui connaît.
Il a besoin qu'on l'aime.
Et ce qui est intéressant sur le but, il aurait pu aller voir les supporters de Nice.
Ouais, il est directement allé voir Claude.
Voilà.
Ouais. Donc ça aussi, il y a une relation. Tout de suite, la transition est toute trouvée. On va écouter Claude Puel sur Elioy tout de suite.
Il a besoin qu'on l'aime, tout simplement. Voilà, il a trouvé un cadre ici à Nice où, malgré qu'on soit dans la difficulté, il a trouvé un cadre pour s'exprimer. Voilà, c'est sans fin, mais ça lui permet, d'une part, ça nous fait du bien, c'est sûr. Et puis lui, ça lui ouvre des objectifs.
Et des entraîneurs, Guillaume, pour lesquels vous avez eu envie de tout donner, de vous dépasser vraiment sur le terrain?
Oui, complètement. Complètement. Quand on a des hommes intègres, des hommes honnêtes, des hommes compétents, ça ne suffit pas. Il faut c'est un ensemble. Alors évidemment, hein. Chacun avec ses limites, ses difficultés, ses défauts. Tout est dit. On voit un Claude Puel qui est tout rayonnant, heureux de la victoire, évidemment, mais surtout de transmettre cette affection dont ce joueur a besoin pour qu'il puisse s'exprimer.
Les amis, on va revenir sur le match. Comment comprendre finalement cette victoire de l'OGC Nice, la thèse de l'accident la semaine dernière? Est-ce que vous y croyez quand on repense à ce 0-4 encaissé face à Rennes, Nico?
Non, parce que l'accident, ça fait quand même plusieurs fois qu'on le connaît cette saison, donc c'est plus un accident. C'est plus une erreur de parcours non plus. C'est des limites d'effectifs qui sont confrontées à des adversaires meilleurs, parce que aussi, comme tu l'as très bien dit, Angers n'a pas fait un bon match. Mais c'est aussi dû à une prestation beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérente. On a gagné deux duels. À partir du moment où dans un match de football, tu ne gagnes pas tes duels, tu ne peux pas espérer grand-chose. À Rennes, on a perdu, je crois, 80% de nos duels, donc on ne pouvait pas exister. Là, Angers, on a répondu présent sur les fondamentaux. On a renforcé la défense, renforcé le milieu de terrain, on n'a pas beaucoup plus compact. Et ensuite, on a su faire la différence avec l'entrée de Lioi, donc c'était pas un accident à Rennes non plus.
Il y a aussi un truc qu'il faut souligner, c'est qu'on a aussi ce profil d'équipe avec une demi-équipe sur toute la saison, et arrivé le printemps, le retour des blessés, le retour un petit peu d'une profondeur. On parlait d'un coach qui peut aspirer, qui peut un peu tout révolutionner. Il y a aussi les limites techniques d'un club par rapport au mercato, par rapport à tout ce qui s'est passé. On les avait jusqu'à présent, je crois qu'à Rennes c'était pareil, il n'y avait pas vraiment beaucoup de solutions derrière le 11 titulaire. Là, on voit du Ndachimé, du Dante, des noms qu'on connaît un petit peu qui reviennent. Et Lioi, évidemment, pour l'attaque, on en a bien assez parlé. Je pense qu'un discours de coach comme Puel sur le mental, avec un peu plus de talent et de capacité technique sur le terrain, qui prêt à être opéré, on va dire, à être en opération, ça peut faire la différence.
Et puis on rappelle qu'il y a eu une réunion qui a eu lieu cette semaine entre les joueurs et le staff à l'initiative du président Jean-Pierre Hivert. Maurice Cohen était présent également. Elle a semblé porter ses fruits, notamment dans l'état d'esprit. Guillaume, est-ce que ces réunions, ça peut avoir l'effet d'un électrochoc et faire prendre conscience aussi au groupe que voilà, l'heure est assez grave?
L'heure est grave. Alors, il faut de temps en temps, c'est important que les dirigeants, les présidents, les responsables martèlent et donnent exactement la ligne de conduite et surtout montrer ce qui ne va pas. Quand on est joueur professionnel, on peut rater des choses, mais on n'a pas le droit de ne pas avoir envie, on n'a pas le droit de ne pas se battre, on n'a pas le droit de... Voilà, il y a plein de choses dont on n'a pas le droit. On a surtout beaucoup de devoirs. Donc c'est toujours bon quand les présidents responsabilisent les joueurs. Après, ça ne suffit pas non plus, parce que si le président descendait dans le vestiaire et faire des réunions toutes les 5 minutes, c'était ça, tout le monde ferait ça. À un moment donné, il faut trouver un juste équilibre. Et là, force est de constater que cette réunion a été à brûle pour point pour pouvoir permettre à Nice de gagner. Donc, c'était efficace.
Nico, cette prestation contre Angers, est-ce qu'elle a tendance à vous rassurer avant d'enchaîner les gros? Ou bon, vous l'avez un petit peu souligné avant, l'adversaire, quasi déjà assuré de son maintien aussi, fait qu'on ne peut pas vraiment s'appuyer sur ce match-là.
Moi, c'est surtout, j'espère que le Côte-Puel va pouvoir s'appuyer sur ce schéma tactique. Je pense qu'il faut malheureusement pas être trop ambitieux dans le jeu, reconnaître qu'on n'a pas les joueurs pour pratiquer le football qu'on espérait en début de saison.
On peut voir tout de suite.
Je trouve ce 5-3-2 très intelligent parce qu'il épaule Dante et il responsabilise moins aussi les jeunes défenseurs centraux à côté de lui. Hicham Boudaoui est à son poste préférentiel et sécurise un petit peu ce milieu de terrain, permet à Morgan Sanson un peu plus de liberté aussi. Et puis devant, avec le retour d'Eli Wahi, pourquoi pas celui de Mohamed Ali Chou, ça peut faire deux flèches pour faire mal aussi aux adversaires. Donc depuis le début de saison, on a vu très peu de fois une équipe enchaînée dans le même système avec les mêmes joueurs. Espérons qu'il ait enfin trouvé la bonne formule pour enchaîner les victoires.
Ouais, pour une équipe qui a pris 74 buts, toutes compétitions confondues, finalement peut-être que le 5-3-2, ce serait aussi une idée pour le calendrier qui est assez fourni. On va en parler d'ailleurs dans le focus de cette émission, tout de suite après la pub. De retour sur le plateau de Copéglon pour revenir sur cette victoire 2-0 du côté du SCO d'Angers. Les bons points, les mauvais points, c'est tout de suite dans les top flops de Copéglon. Allez, les top flops, Nico, et on commence évidemment avec Eli Wahi. Ah, comme ça, au hasard.
C'est lui qui l'a pris. Bon, Eli Wahi,
qui es-tu? D'où viens-tu? On parlait de game changer, là c'est season changer. Il a complètement changé le visage de l'équipe. En tout cas, dès qu'il est sur le terrain, c'est plus la même équipe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est il a ce côté attachant. Moi, j'ai envie de le voir continuer à l'OGC Nice. Parce qu'au-delà de ses buts, l'impact qu'il a sur l'équipe, on a l'impression qu'il libère tout le monde. Il rassure tout le monde aussi. Parce que même si t'es pas forcément flamboyant dans le jeu. Quand tu sais que tu as quelqu'un devant qui a la moindre opportunité, va marquer. Tu joues aussi libéré. Je pense que les défenseurs jouent avec moins de pression d'encaisser un but. Donc, je pense sincèrement que la fin de saison va dépendre en grande partie d'Eli Wahi. Donc, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien.
Dépendant d'Eli Wahi et peut-être aussi de Charles Van Hout qui.
Alors, je l'ai vraiment mis pour dire je mets quelqu'un parce que j'avais pas forcément envie de mettre quelqu'un en flop. Même Kevin Carlos, j'avais plus envie de le mettre parce que je veux plus en parler négativement. J'ai même de la peine pour lui. Mais Charles Van Hout, parce que j'ai trouvé que des trois au milieu, ça a été celui qui a été un peu moins bon, notamment avec ballon. Il est toujours très généreux dans l'effort. Il fait beaucoup de courses, je pense, qu'on ne voit pas, mais qui sont très utiles. Mais dans l'utilisation, je l'ai trouvé un petit peu inférieur à Hicham Boudaoui, qui a été rayonnant, et Morgan Song, que j'ai trouvé mieux. Donc c'était vraiment pour mettre quelqu'un négativement, mais à contre-cœur.
Contre-cœur. On va ouvrir, donc, du coup, le dossier Kevin Carlos avec vous, John, puisque vous l'avez mis
en top.
En flop. J'ai envie de vous poser la question directement. Kevin Carlos, on aurait pu le même mettre d'ailleurs en titre dans le liner, dans le bandeau en bas. À quoi ça rime, en fait?
Ah, totalement. Non, mais je pense que ça souligne bien. On est dithyrambique sur Eli Wahi, qui est un très bon joueur, mais ça souligne aussi le mercato globalement raté de notre cellule de recrutement. Parce que, en fait, Kevin Carlos est là pour mettre en valeur Eli Wahi. Je crois que la seule occasion, la seule tête, on en parlait hors plateau, qui met, il est, je crois, quand même hors jeu.
Du coup, ça fait zéro tir cadré.
Voilà, en fait, quand on a envie d'y croire, mais en fait, on le sait maintenant, on le savait, on attendait. Moi, il y avait Wahi qui était sur la feuille de match. Je vous ai même envoyé un petit message. J'ai dit, bon, maintenant, il faut que Wahi rentre parce que le bloc collectif est en place. Il a, on va dire, un peu fatigué les défenses adverses pour laisser. Pleine mesure à Eli Wahi. Il n'y a plus rien à dire sur ce joueur-là. Malheureusement, il n'est pas au niveau de l'OGC Nice qu'on veut, en tout cas.
Mais il continue à être titulaire.
Parce qu'il n'y a pas de choix.
Lui fait confiance.
Les jeunes, sinon, moi, je ne sais pas.
Pour l'instant. En top, c'est Hicham Boudaoui.
Oui. Alors, c'est Eli Wahi, mais a priori, trois semaines sans être là, je ne peux même pas en parler.
Vous êtes un petit peu déclassé.
Je pensais avoir le privilège du retour, mais non.
Il va falloir regagner sa place de.
Je m'éloigne, mais j'arrive. Boudaoui. Déjà, parce que je crois que c'est la première frappe cadrée dont je me rappelle en première période. C'est lui qui a amené un petit peu de danger dans la surface adverse, avec un beau tir cadré d'ailleurs. Et, en fait, je me suis dit, tiens, le premier joueur de l'équipe qui va tenter, qui a l'esprit un peu but. Alors on avait Boudache et Carlos devant, mais il y avait pas, ça n'a jamais été face au but, ça n'a jamais tenté. Il n'y avait que les pistons pour apporter le danger, mais il en parlait justement. Quand Eli Wahi arrive, les pistons pensent aussi plus à marquer, pensent aussi plus à être libérés. Et avant qu'il y ait la rentrée du joueur à la 50e, 60e, je pense que c'était que Boudaoui qui avait cet esprit un peu de se dire tiens, on va tenter de marquer le premier but.
Voilà. Ouais, qui s'est remis un petit peu la tête à l'endroit par rapport à la semaine dernière.
S'il a envie, c'est fou de dire ça, mais s'il a envie et s'il est concerné à ce poste-là, parce que je pense qu'on l'a trop peu utilisé à ce poste-là depuis son arrivée à l'OGC Nice, il n'y a pas grand monde qui parle avec lui, je pense, dans le championnat, je le pense sincèrement. Et encore, je pense qu'il est très loin de son meilleur niveau, mais il rassure tout le monde, techniquement, que ce soit sous pression, il n'y a rien à dire. Il est très intelligent dans ses courses, il bloque des contre-attaques. on va avoir besoin de lui, donc j'espère que lui aussi s'est remis un petit peu la tête à l'endroit.
Vous dire oui, plus impliqué samedi contre Angers. On ouvre un autre dossier aussi, Guillaume, avec vous, c'est celui de Youssouf Ndiaye Chimié qui a joué 10 minutes les 10 dernières lors de cette Angers-Nice. Il est revenu des croisés, la dernière apparition sur le terrain c'était fin avril. Vous nous le confirmez, revenir de cette longue blessure que sont les croisés, c'est un vrai parcours du combattant.
C'est le parcours du combattant parce qu'en gros, il faut 6 mois d'abord d'opération rééducation pour revenir, et après il faut en gros pratiquement 6 mois pour retrouver son niveau. Allez, donc on peut toujours dire on peut faire 3 mois, 4 mois, quand dans une grande blessure comme ça, entre 10 et 1 an presque pratiquement, il faut pour retrouver le niveau qui était le sien avant, le vôtre, et après une fois qu'on a le niveau, c'est le pour aller chercher le très haut niveau. Donc le fait de revoir un joueur qui a eu les croisés, qui revient et qui rejoue, ça je sais exactement ce que ça
sur
fait
sur les 6 premiers mois. Il n'y a pas de travail musculaire pour garder un petit peu la tonicité.
C'est pas ça. C'est-à-dire que le croisé antérieur, c'est un ligament qui est très particulier et il faut au moins 3 mois de cicatrisation. Ouais. Donc il faut le temps. On peut pas aller plus vite que le temps. Les chirurgiens font des miracles. C'est de plus en plus
demande
de l'idée. Voilà, des choses. Mais on peut pas aller contre la nature et quelquefois il y a des rechutes parce que les joueurs vont trop vite. Donc maintenant on récupère beaucoup plus vite. Mais ce que je veux dire par là, je préfère dire un an, même s'il y a des joueurs qui reviennent à 6 mois, 8 mois, mais un an entre 10 entre 8 et 12 mois pour retrouver son niveau qui est le très haut niveau.
Donc juste quand on rejoue, on doit y penser aussi.
Mais quand on rejoue, on n'est pas totalement libéré. Voilà. Il y a toujours un moment donné. Alors après, avec le temps, on oublie, mais ça fait toujours du bien de voir un joueur. Donc la question, elle est vraiment valable et valide. Tous ceux qui ont connu le croisé antérieur ou des graves blessures, mais particulièrement le croisé antérieur, le jour où ils reviennent, là, c'est quelque chose de très important dans leur vie, dans leur carrière.
Vous l'avez trouvé comment, Youssouf Ndiaye Chimié, pendant ces 10 minutes? On n'a pas eu trop le temps de le voir, mais...
Ouais, il n'a pas trop été sollicité, mais je pense que ne serait-ce que sa présence rassure aussi. Moi, je tiens à souligner que j'étais présent au match du groupe Elite la semaine dernière contre Monaco. Il était titulaire, capitaine. Il a pris son rôle à cœur, il a été dans la communication. Il dégage cette espèce de force tranquille aussi qui rassure tout le monde autour de lui. On rappelle qu'il a cette polyvalence aussi pour jouer un petit peu plus haut sur le terrain. Ça peut peut-être donner d'autres solutions en cas d'absence. Donc c'est sûr que son retour, même à un niveau
et 75%,
un petit peu diminué, ça peut faire beaucoup de bien à une équipe qui est dans le besoin.
Et on se souvient de son but dans le temps additionnel face à Strasbourg, on s'en souvient l'année dernière. Nous aussi, on est dans le temps additionnel de cette émission.
Oh, mais moi, ça m'a manqué.
De Copéglon, c'est parti, on passe au focus. Allez, on y va. Allez les amis, focus spécial calendrier. 5 membres du top 8 affronteront l'OGC Nice sur les 8 prochaines rencontres. Alors on a Paris et Lens à domicile, Strasbourg, Lille et Marseille à l'extérieur. Le gym qui n'a plus gagné contre un gros depuis le 29 octobre, date de la dernière victoire à domicile en Ligue 1 contre Lille. Depuis 2 succès, un contre Nantes, un contre Angers, faut-il s'attendre? Toujours assez polémique dans ce focus, à un 0 pointé contre ces équipes et voir revenir de facto les autres prétendants au maintien, oui ou non, et après on développe. Nico.
Non, non, non.
John.
Je suis un homme de débat, mais non. Non.
Petit coup. Non.
Bah, petit non, alors, pour le débat.
Guillaume.
Non, absolument aucun zéro pointé pour Nice.
Aucun zéro pointé pour Nice. Je vous donnerai mes arguments. On commence avec vous, Guillaume. Bah, on y va.
Allez.
J'aurais préféré terminer parce que ça aurait fait un peu plus.
Vous préférez terminer? Non.
Il n'y a pas de privilège ici.
Il n'y a pas de privilège. J'attaque d'entrée, j'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on oublie. Alors, c'est vrai qu'on regarde le niveau. Comment dire? Le niveau global de la saison, Nice était en difficulté, ils sont en train de revenir, et il y a quelquefois des petites étincelles, des faits qui font basculer une saison, et Angers peut en être un. Mais surtout, au-delà de ce fait-là, peut-être qu'on oublie que les joueurs comme Klose, Dante, Sanson et d'autres sont des joueurs d'expérience qui ont un énorme vécu et qui ne demandent qu'à retrouver une deuxième jeunesse et un second souffle. Et quelquefois, il ne faut pas grand-chose pour pouvoir se retrouver de la confiance et se transcender. Et quoi de mieux que les gros clubs, les ténors, pour faire parler de soi sur une fin de saison?
Passer après ça, après
c'est compliqué. C'est pour ça que je voulais passer en dernier.
Pardon, c'est une belle conclusion. Et malheureusement, c'est pas
compliqué. Nico. Non, moi je trouve déjà que ça veut tout et rien dire, jouer des gros, parce qu'il y a les dynamiques aussi à prendre en compte, il y a plein d'autres facteurs. On prend Strasbourg qui est en Ligue 1 et qui est moins bien depuis quelques matchs. Lyon a beaucoup de blessés, Marseille à domicile, on sait jamais à quoi s'attendre. Donc... c'est compliqué de se positionner. Comme l'a très bien dit Guillaume, on a des joueurs qui ont un certain ego. Je pense que Dante va vouloir aussi finir sur une bonne note cette carrière fantastique. Et puis il y a le retour d'Eli Wahi, il va y avoir le retour petit à petit de Mohamed Ali Chou aussi. Donc Je pense que, alors on va pas s'enflammer, mais on va être capable d'aller chercher ces quelques points, en tout cas pour valider le maintien le plus rapidement possible.
J'avais ces 2-3 points pour étayer les propos, donc je continue avec toi. C'est le retour.
Hein, John, hein, la défaite 4-0 face à Rennes, la défaite 5-1 face à Toulouse aussi en début d'année.
C'est des contextes, clairement, on peut pas oublier ça de toute façon sur une saison. Par contre, oui, je rejoins Nanino dans le sens où les joueurs vont revenir, mais en forme. Les joueurs vont revenir en forme. J'ai dit Nanino, c'est ça. Oui, mais c'est un Brésilien pour moi. Donc les joueurs vont revenir en forme. En fait, tous ces retours dont tu parles, et le Ndachimié et tout ça, sur une fin de saison, on est un profil, ça fait 2-3 saisons qu'on finit bien, parce qu'on a justement ces joueurs à chaque fois blessés la majeure partie de la saison et qui reviennent. Il y a aussi un autre point, c'est le calendrier des autres équipes. J'ai quand même regardé aussi, il n'y a pas non plus des rendez-vous faciles pour les concurrents directs. J'ai envie de dire Nantes-Auxerre, il y a quand même du Lens, du Marseille, il y a quand même des pertes de points. Ça qu'on a une avance. Si on était à égalité, j'aurais un autre discours. Après, voilà, je pense aussi qu'on a ce profil contre les forts.
Mais moi, je suis d'accord avec tout ça, et c'est pour ça que d'être libéré, d'avoir gagné Angers, ça va libérer un espèce de couvercle, parce que jouer le maintien, c'est quelque chose. Hein.
Et puis on oublie Kofi aussi.
Alors, c'est pas comment ?
On oublie Kofi qui nous fait croire qu'on est encore un peu, mais il y avait 4-5-0 facilement là.
Voilà, exactement. Donc, il y a quand même des joueurs d'expérience, et ces joueurs-là ont aussi des caractères. Mm-hmm. Ce sont des joueurs qui vont vouloir faire quelque chose. Donc, contre les gros, je pense qu'on va risquer
Paris
de voir des bons
pas,
matchs.
Mais les autres, plus confiants.
Ouais.
Du côté de Clopin, en tout cas, le mot d'ordre, c'est pas d'enflammade véritablement. On l'écoute.
C'est une victoire collective qui fait du bien, je dirais, bien sûr, d'un point de vue arithmétique à court terme. Ce ne sera pas une finalité. Et puis une confiance indispensable pour ces joueurs, parce qu'il y a de la qualité. Et là, ils l'ont montré avec en plus une attitude irréprochable.
Je vous ai fait la liste des adversaires des gros qui allaient affronter l'OGC Nice. Contre qui, rapidement à la volée, si quelqu'un peut m'éclairer, contre qui l'OGC Nice peut aller prendre ses points
Auxerre.
Non, contre les gros.
Les gros,
bah non, sinon ça marche pas.
On va dire Strasbourg x2, championnat et Coupe de France.
Marseille.
C'est beau, effectivement. Lens non.
Je peux pas dire, même si Lens c'est pas très bien en ce moment, c'est impossible, je peux pas dire ça. Non, je sais pas. Paris, allez hop, tiens.
Oh, après la Ligue des Champions, pareil. Pourquoi pas?
Petit mot aussi sur rapidement sur Vaidan Jozic, le coach du nouveau coach du FC Nantes.
Ouais.
Parce que Nantes est aussi dans la lutte pour ne pas
Nantes descendre. Nantes est mal en point.
Et à 10 points de moins, ils ont un match en moins aussi. C'est quoi, c'est un bon choix, mauvais choix?
Je sais pas trop. Bon, voilà, on voit Claude, c'est un entraîneur d'expérience. Vaïd, pareil. Maintenant, ça va pas forcément faire de mal, puisqu'il connaît parfaitement la maison. Est-ce que c'est pas déjà trop tard pour Nantes? On verra. Je pense pas que la venue d'Ali Lodic va changer les 10 points de retard. Par contre, il va amener, je pense, il va insuffler quelque chose.
Affaire à suivre, en tout cas, messieurs. Avant de se quitter, on s'intéresse tout de même au classement de cette Ligue 1. Avec, on va le voir, ce mano à mano, toujours entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Avantage PSG, toujours, même sans avoir joué ce week-end pour cause de match retour de Ligue des Champions. On retrouve le GC Nice incrusté dans la deuxième partie de tableau à la 15e place avec 27 points. C'est juste après 8 de plus désormais que le barragiste Auxerrois. Nantes et Metz ferment la marche. Quelle va être la suite pour le GC Nice? On va s'y intéresser dans un instant avec le calendrier du gym. Au programme, la réception du Paris Saint-Germain ce samedi à 21h. À suivre le déplacement à Strasbourg après la trêve internationale le samedi 4 avril. L'acte 1 avant la demi-finale de Coupe de France le 22. Entrecoupé par deux matchs de championnat, Le Havre le 12 et Lille à Pierre-Mauroy le 19 avril prochain. Merci messieurs de m'avoir accompagné pour cet épisode de Coupe Aiglon. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, lundi 19h. D'ici là, passez une très bonne semaine. Bye bye.